Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, CFAQ.
Ça part ici.
Le récap CFAQ pour ne rien manquer des Jeux du Québec avec Alex Baillargeon.
Bon début de soirée en ce huitième et dernier jour des Jeux du Québec, présenté en région Sherbrooke-Oise. Mon nom est Alex Baillargeon, je m'installe avec vous pour la prochaine heure pour vous présenter nos meilleurs moments ainsi que le résumé de cette dernière journée. On retrouvera un topo d'ailleurs de Vincent Gianjopi pour le hockey féminin. Quelques compétitions avaient lieu encore cet avant-midi. La cérémonie de fermeture qui a lieu présentement, qui est en train de se conclure du côté du Palais des Sports. Merci de nous synthoniser au 88.3 pour cette dernière émission du Récap CFAQ. Comme je le disais, on a été avec vous toute la semaine et on a rencontré plusieurs des athlètes qui ont performé lors de cette édition des Jeux du Québec, 58e édition. On ira réentendre ces meilleurs moments, ou peut-être allez-vous les découvrir si vous n'étiez pas avec nous au courant de la semaine. Il y a possibilité de rattrapage dès lundi. Toutes les émissions seront disponibles sur notre site au cfaq.ca. Compétition d'escrime qui était présentée également cet avant-midi du côté de la salle Alfred Desrochers au cégep de Sherbrooke, où c'était bien aménagé. Oui, c'était quand même... Je ne pensais pas qu'on pouvait tenir jeu sur la scène de la salle Alfred Desrochers, mais le décor était beau. Il y avait beaucoup d'encouragement des différentes délégations qui étaient présentes. Au cumulatif, la Rive-Sud est repartie avec 10 médailles. En escrime, 3 d'or, 4 d'argent et 3 de bronze. Mais l'Estrie a tout de même fait bonne figure en troisième position avec 1 d'or, 2 d'argent, 5 de bronze. Lac-Saint-Louis sont les plus méritants aux médailles d'or avec le nombre de 6, 1 en argent et 2 de bronze. Je voulais également souligner pour la catégorie, c'était la catégorie masculine au sabre. C'est à l'épée. Pardon, les moins de 15 ans masculins à l'épée. Non, c'est pas l'épée. C'est bien le sabre. Voilà, donc Emmanuel Labrador Rodriguez qui est reparti avec plusieurs médailles puisqu'il avait compétitionné lui aussi lors des matchs en équipe. On s'était posé la question autour de la table cette semaine, comment les matchs en équipe se déroulaient en escrime. On avait peut-être l'idée d'un combat Pokémon de 2 contre 2 en même temps. Ce n'est pas le cas, donc c'était bien... Deux équipes de deux joueurs qui s'affrontent les uns à la suite des autres par manche. La première équipe qui fait 20 points remportait la partie. On va dire ça comme ça. Parmi nos meilleurs moments, parmi les rencontres qui ont été réalisées cette semaine, revenons dans les premiers. Dans les premiers jours, Jacob Canville était du côté du basket en chaise roulante et avait rencontré les représentants de l'Estrie d'Annick et la capitaine Manolita qui étaient très contents tous deux de remporter la médaille de bronze. On va aller les entendre tout de suite.
Bonjour à tous. Présentement en compagnie de Danick ainsi que Manolita, fier représentant de l'Estrie qui viennent tout juste de remporter la médaille de bronze en basketball fauteuil roulant. Danick, comment tu te sens après cette belle victoire?
Oh, incroyablement content. Je me sens comme si j'étais champion du monde.
Quelle belle réponse, honnêtement. Puis ton entraîneur me dit que tu étais un joueur avec un bel esprit sportif. Est-ce que tu penses que ça a apparu sur le terrain? Puis est-ce que tu penses que ça a eu un impact positif là, sur tes coéquipiers?
Ben, je pense que les encourager, ça leur donne des confiances en eux, puis ils réussissent plus.
Parfait, ça. Puis moi, j'ai eu aussi la chance de te voir jouer sur le terrain. Puis je tiens à souligner que t'as joué une très belle partie, là, honnêtement. C'était super beau à voir. Parle-moi un peu de ton expérience des Jeux du Québec jusqu'à présent. Est-ce que t'apprécies le moment?
Ouais, j'en ai déjà eu un dans le passé. On avait fini quatrième, c'était l'année passée. C'est incroyable qu'on ait eu la médaille de bronze cette année. Je suis vraiment trop fier.
Ben oui, fait que ça veut dire que c'est quand même une belle évolution là, que tu as eue entre les deux Jeux du Québec. Fait que ça prouve que tu t'es amélioré et que ton esprit d'équipe a fait la différence sur tout au long des Jeux du Québec. Là. Je vais passer maintenant au côté du coach Manolita. J'étais sur le côté puis j'ai vu les émotions qui sont apparues quand la victoire est arrivée. Qu'est-ce que tu peux dire sur la fierté que tu as ressentie là, par rapport à tes joueurs?
Ah bon, mon corps est en train d'exploser de fierté. Là. Je sais pas. Je suis arrivée ce matin avec l'idée, ça va être serré, probablement pas en notre faveur, mais on va tout donner. Et puis là, la prestation qu'il nous a donnée. Encore là, je les larmes aux yeux. Là, je suis tellement fière des autres. Ils ont bien travaillé. C'est un travail d'équipe. C'est pas juste une seule personne qui a fait la différence. Je suis tellement fière des autres. Et puis, regardez, dans notre début, le tournoi était vraiment plus difficile. Et puis là, on a une montée incroyable. Waouh!
Quel sentiment de fierté, j'imagine. Est-ce que tu peux me parler un peu de la préparation qui s'est faite avant les Jeux du Québec par rapport à ça? Qu'est-ce que ça a impliqué, là, la préparation avant les Jeux du Québec?
Ben, moi, j'ai toujours tenu à qu'il n'y ait pas trop d'attente pour les Jeux. C'est qu'ils jouent sans avoir trop de stress. T'as eu du plaisir, du fun tout en long. Et puis, c'était important pour moi. Et puis, quand on est arrivé au match plus décisif, j'étais allée chercher aussi leur avis. Car on est une équipe, on prend les décisions en équipe. Et pour ce rencontre, on est vraiment une équipe et on travaille ensemble. Et tu sais, la préparation, c'est vraiment cette année, comparé à l'année passée au jeu, cette année, on avait une équipe dans la Ligue. Ça a aidé beaucoup. Donc, il y a eu plus d'expérience de match que l'année passée, qu'on était vraiment une toute nouvelle équipe. Donc, je suis vraiment fière de leur progrès et puis de leur cohésion d'équipe et l'esprit d'équipe. Là, je suis juste fière.
Donc, je pense que ce qu'on peut retenir de la coach, c'est le mot fierté. La préparation aussi, de ce que j'en comprends, ça a été beaucoup de plaisir et l'esprit d'équipe. Encore une fois, félicitations à vous deux pour votre très belle performance qui vous a donné la troisième place et la médaille de bronze. Donc, je vous souhaite une très belle fin des Jeux du Québec, puis amusez-vous le plus possible. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et si je ne me trompe pas, Danick avait également remporté la bannière d'esprit sportif, justement, pour ses encouragements à tous et chacun. Donc, félicitations à eux encore une fois. Toujours dans ce jour 3, c'était bien ça? Jour 3. On était du côté de la boxe également. Vincent Gianjopi a rencontré des boxeurs. Il a rencontré Yasmina, Balkam et Charles, qu'on peut aller entendre.
Je suis en présence de Yasmina, Belkacem et Charles, boxeurs de la Rive-Sud qui ont respectivement gagné une médaille de bronze et deux médailles d'or. Yasmina, commençant après cette belle victoire-là.
Je suis heureux, je me sens bien. J'ai travaillé très fort pour ça, puis... C'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Je l'ai mérité, j'ai eu ce que j'ai cherché, puis c'est ça, je suis heureuse.
Est-ce qu'il y a des gens que t'aimerais, saluer après ce beau moment-là?
Tous mes coachs, les gens qui ont pas pu me voir, ma famille du Maroc, ma mère surtout, puis c'est ça.
Ouais. Toi, ton côté, Belkacem, champion médaille d'or aux 145 livres, comment on se sent?
Ça fait du bien, surtout après tout le travail qu'on a passé. On a travaillé dur, on a dû perdre du poids, c'est beaucoup d'entraînement. Et ça a fini par payer. On remercie Dieu.
Ouais. Parlant de perte de poids, tu es un jeune homme en pleine croissance. Peux-tu me parler du processus que tu as dû faire en fait pour arriver à ces 145 livres-là?
Ben, j'ai dû m'entraîner fort, courir tous les jours, faire beaucoup de sparring. C'est pour suer plus que la normale. Comme ça, je perds plus de poids. J'ai dû perdre beaucoup d'eau de mon corps. Wow. J'ai perdu de l'énergie. Mais finalement, j'ai pu faire le poids et arriver ici à la compétition en forme et gagner la médaille d'or.
Je savais pas que c'était une méthode, ça, acheter un habit qui te fait suer plus, mais c'est pas fou si ça marche, hein? Ouais. Toi, ton côté, Charles, médaille d'or, comment on se sent?
Vraiment bien, c'est le plus beau jour de ma vie. Tous les efforts que j'ai fait pour y arriver là, et pour gagner la médaille d'or, vraiment, je suis très fier de moi.
Ouais. même. Avec raison. Ton coach me dit que t'avais un parcours pas facile. Peux-tu nous parler un peu plus de ça?
Ouais, ben j'ai commencé la boxe, j'ai fait deux combats, puis après ça, j'ai été diagnostiqué d'une maladie, une tumeur bénin, c'est pas cancéreux. Mais le traitement m'a complètement mis à terre, la fatigue. Il y a 5 semaines, j'ai repris l'entraînement intensif, je suis allé aux Jeux du Québec, puis j'ai remporté l'or.
Quand même pas mal inspirant, hein?
Ouais.
Coach, est-ce qu'on a quelque chose à dire par rapport à... Ben, à ces trois jeunes personnes-là?
Ben, moi, je suis fier d'eux autres, puis on a passé une belle expérience à toute la gang ensemble, puis je pense qu'ils ont appris, puis que c'est pas fini encore, puis que je suis fier d'eux autres aussi. Ouais. Bravo!
Pouvez-vous me parler un peu de comment vous êtes rentré dans le milieu de la boxe en premier lieu?
Ben moi, je l'ai pas... Je suis arrivée tard quand même. Ça fait que 1 an et demi, presque 2 ans que je boxe. Quand j'étais jeune, je faisais aucun sport. J'étais comme la seule pas sportive. Puis la boxe, ça m'a vraiment aidé à me remettre sur le droit chemin. Ça donne de la discipline. Puis je regrette vraiment pas de m'avoir joué à ce sport. Puis je remercie mes coachs.
Ouais, toi, Belkacem?
Moi, je regardais mon grand frère faire. Avant, il a commencé la boxe bien avant moi quand j'étais plus jeune. Il faisait beaucoup de boxe. Je le voyais faire. Puis ça m'a vite intrigué. J'ai commencé la boxe et depuis, je suis toujours là. Je pratique ce sport, puis c'est le sport mon préféré.
Toi, ton côté, Charles?
De mon côté, c'était vraiment l'intimidation à l'école. J'ai commencé à faire du karaté, mais juste 3 mois, il n'y avait pas assez de contact pour moi. J'ai vu Rocky, le film, puis ça m'a donné envie d'essayer la boxe. Ouais. C'est vrai.
C'est vrai que ça donne le goût, hein, Rocky?
Ouais, j'ai commencé la boxe, j'ai accroché.
Ouais. j'aime ça. Mais, ouais, donc j'imagine que ça n'a pas dû être facile. C'était au secondaire, ouais, l'intimidation.
Tout mon parcours scolaire.
Ouais.
J'avais pas de confiance en moi. C'était tout mon parcours scolaire, l'intimidation non-stop.
Puis qu'est-ce que la boxe t'a procuré?
Beaucoup d'assurance à l'école. J'ai plus personne qui m'a écœuré depuis.
Je suis vraiment content de le savoir. C'est vraiment, vraiment cool. De manière un peu plus générale, vous êtes encore très jeune. Comment vous faites pour concilier sport et études, en commençant par toi, Yasmina? Le sport et les études?
Moi, dans le fond, je suis en langue et communication. J'ai pas vraiment de misère avec l'école. Je m'entraîne 5 fois semaine, 4-5 fois semaine. Puis, je suis capable de tout faire mes devoirs à la maison. J'ai pas de misère. Donc, honnêtement, la boxe, ça aide. Ça amène de la discipline. Puis, si tu es discipliné dans quelque chose, il faut que tu sois discipliné dans quelque chose d'autre. Tu peux pas être juste bon dans une affaire. Si tu fais quelque chose, tu dois finir l'autre chose comme il faut. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
Ben, c'est ça.
Oui, j'aime ça. Toi, Belkacem, sport études?
Moi, je m'entraîne, j'étudie, je fais les deux mon maximum possible. Ça prend beaucoup de mon énergie, mais on essaie de continuer et de travailler fort. Ouais. C'est ça.
Et toi, Charles, conciliation sport études, comment tu y arrives?
Au début, c'était plus facile, mais depuis mon traitement, une journée d'école, ça me brûle complètement. Mais je vais quand même au gym après, puis je pousse de tout mon possible, puis c'est pas tout le temps facile, mais j'y arrive.
T'es vraiment une source d'inspiration, Charles. Sérieusement, là, je m'attendais pas à avoir une histoire comme ça dans mes entrevues, mais le fait que non seulement que t'ailles à l'école, que tu sois en mesure de performer dans ton sport comme ça, je te lève sincèrement mon chapeau. Et dernière petite question. Encore une fois, vous êtes très jeune. Vous pensez que la boxe peut vous mener où sur le long terme? Si vous y avez pensé, évidemment.
Moi, j'aimerais marquer l'histoire puis que les gens me reconnaissent comme... Souvent, les garçons. On connaît les grands boxeurs garçons. Il y a quand même des bonnes boxeuses filles, mais moi, je veux que les gens me voient puis qu'on parle de boxe, ils disent « Ah, est-ce que vous connaissez Yasmina? » Je veux marquer. Je veux que les gens, ils entendent le mot boxe, ils pensent à moi, mon parcours, tout ce que j'ai fait. C'est vraiment ça.
J'aime ça, puis je te souhaite sincèrement que ça fonctionne. C'est très, très, très inspirant. Toi, Belkacem?
C'était quoi la question déjà?
Sur le long terme avec la boxe, où est-ce que tu dois aller avec ça?
J'espère un jour atteindre le niveau professionnel. On verra comment ça va. Je continue la boxe de mon côté et travailler plus fort de jour en jour. Et on va voir où ça va mener. Ouais. Et on espère arriver au professionnel.
Oui, je te le souhaite. Et finalement, toi, Charles?
Puis moi, pour moi, les combats, je vais essayer de les continuer le plus possible. Parce qu'à 17 ans, je vais rentrer à base militaire, je ne pourrais pas trop en faire. Mais je vais essayer d'en faire le plus possible puis prendre le plus d'expérience possible.
Donc, tu vas joindre l'armée aussi? Est-ce qu'il y a une raison en particulier pour laquelle tu fais ça?
C'est vraiment le mode de vie. J'aime tout de l'armée. C'est, Vraiment, je suis juste attiré par ça.
Intéressant. J'ai plusieurs amis dans l'armée, puis ils aiment vraiment ça, donc je suis convaincu que tu vas te plaire aussi. Coach, un petit mot de la fin?
Non, mais comme je disais tantôt, moi, je suis fier d'eux autres, puis gars, comme je dis encore, c'est pas fini, puis gars, on va travailler fort pour atteindre d'autres objectifs, puis on a d'autres tournois qui s'en viennent, puis c'est ça.
Ouais. Mais en tout cas, vous avez deux jeunes boxeurs et une jeune boxeuse. Très inspirant.
Ouais.
Écoutez, je vous remercie énormément pour votre temps. Puis oh, est-ce que c'est le temps pour les cérémonies? Allez-y. Bon, merci beaucoup.
Merci à toi.
Alors, de la Rive-Sud, pour bien les présenter comme du monde aussi, Yasmina El Archaoui, médaillée de bronze pour la catégorie juvénile féminin, moins de 114 livres. Belkacem Bouzitoun de la Rive-Sud, médaillé d'or juvénile masculin, 145 livres. Et finalement, Charles Dumas, également médaillé d'or pour le juvénile masculin, 138 livres. On s'arrête quelques instants, au retour, on continue à redécouvrir ou à découvrir nos meilleurs moments de la semaine ici au Récap CFAQ. Vous écoutez le 88.3 FM. Toujours à l'antenne de CFA 88.3, c'est le récap du récap, on peut l'appeler comme ça. Donc, on vous représente en ce samedi nos meilleurs moments de la semaine, notamment avec les rencontres qu'on a faites avec les différents athlètes pour continuer dans cette journée du mardi. On vous avait également présenté une rencontre avec les représentants de Chaudière-Appalaches, médaillés de bronze dans au sport de ringuette.
Donc aujourd'hui, on est avec des athlètes de ringuette. Je suis avec Kélia et Ellie, c'est bien ça?
Oui.
Parfait, enchanté. Donc votre âge et la région que vous représentez?
J'ai 13 ans et je représente Chaudière-Appalaches.
J'ai 14 ans et je représente Chaudière-Appalaches.
Enchanté les filles. Donc là, on vient d'assister à votre match de 3e place, médaille de bronze. Vous avez gagné avec... c'est qui la gardienne entre vous deux?
Ouais.
Super bel arrêt à la fin. Là. Pour la première question pour toi, c'est qu'est-ce qui te passait par la tête à ce moment-là? Ce genre de 5 secondes-là où ça a eu lieu? Là.
Je pensais à rien de spécifique. J'essayais de faire le vide dans ma tête pour être le plus concentré sur la joueuse et d'essayer d'anticiper qu'est-ce qu'elle allait faire pour essayer de faire l'arrêt. Ouais.
Toi, sur le banc...
J'avais vraiment comme... confiance à Ellie. On se connaît depuis longtemps puis je savais qu'elle était capable de l'arrêter.
Yes, bonne réponse. OK, deuxième question. Ça fait combien de temps que vous pratiquez le sport de la ringuette?
J'ai commencé, j'avais 4 ans.
Quand t'avais 4 ans?
Ouais.
Ok, c'est quand même.
J'avais 9 ans. Ouais, c'est ma 9e année. J'ai commencé à l'âge de 7 ans.
Ok. Ouais, deux joueurs déjà avec beaucoup d'expérience. Est-ce que vous avez des premiers souvenirs quand vous avez embarqué sur la glace? Est-ce que vous avez des premiers souvenirs de la ringuette?
Ouais. Avant, j'étais dans les buts, puis elle a joué.
Ok.
Fait qu'avant, c'était comme moi. Avant, c'est ça.
Oui,
exactement.
On va ça aussi. OK. Là, pour les Jeux du Québec, c'est quand même une grosse affaire. Beaucoup de monde vient de voir ça, puis il y a beaucoup d'équipes. Est-ce que vous aviez un peu des objectifs personnels?
Je voulais faire le mieux de moi-même, bien performer, puis montrer à mon équipe que j'avais ma place dans l'équipe.
Moi, je voulais finir dans la moitié des meilleurs goalers, genre dans le top 12, je pense.
Okay.
Puis je voulais qu'on se rende le plus loin possible, dans le top 3 et
Fait que là, t'as quand même réussi à atteindre vous avez réussi à atteindre ces buts-là, j'imagine. C'est ça, là, tu sais, on a parlé de ton gros arrêt à la fin, mais tout au long de la fin de semaine, il y a beaucoup de matchs quand même. Comment est-ce que vous gérez la pression et le stress? Parce que moi, avec toute cette foule-là, je serais tout le temps anxieux, les cris, les gros bruits. Fait que comment est-ce que vous faites pour gérer ça un peu?
Moi, mes coachs m'ont vraiment aidé. Avant qu'on embarque sur la glace, ils prennent 2-3 minutes, puis ils nous font un petit speech, puis ils nous disent de prendre des grandes respirations. Ça m'enlève beaucoup de stress, puis sur le banc, ça paraît que les coachs sont calmes, puis ils sont doux avec nous. Ouais. Ils sont pas énervés.
Non, c'est ça, bon. Ça vous aide à un peu rester calme tout au long.
Moi, je fais comme Kélia, puis je visualise le match, puis les arrêts que je suis capable de faire.
C'est bien, ça. Parfait. Une prochaine question pour vous. Qu'est-ce que vous diriez qui est l'aspect le plus difficile dans le sport de la ringuette?
Le plus difficile, c'est de se faire confiance, puis de bien performer, puis de se dire on est capable, parce qu'on va toujours se comparer aux autres. Il faut se comparer à soi-même. À
c'est place facile de juste voir le score, puis d'abandonner, mais il faut...
Ouais, exactement.
Moi, ça serait plus de gérer mon stress, mais aussi de bien performer, puis de prendre mon temps, puis m'appliquer pour faire les choses.
Okay.
Pas me précipiter.
C'est bon, ça, j'aime ça. Est-ce que vous avez un moment marquant à travers toutes vos années que vous avez joué qui est vraiment votre meilleur souvenir de Ringuette?
Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'était le plus beau parce que c'est comme les Jeux du Québec, c'est gros, c'est énorme, puis c'est un beau, gros tournoi, puis il y avait beaucoup de gens dans les estrades, puis avec notre missionnaire, toute l'équipe qu'on a eue, c'est vraiment impressionnant de l'avoir gagné.
Moi aussi, ça serait les Jeux du Québec. Ça a vraiment été une expérience formidable, puis j'aimerais vraiment ça revivre.
Puis vous allez repartir avec une belle médaille de bronze en plus.
Ouais.
Ça, c'est vraiment cool. C'est quoi vos plans dans l'avenir proche ou lointain avec la Ringuette?
Faire l'équipe du Junior 2A pour les Cyclones au Québec l'année prochaine.
Okay. Bon,
ouais, moi aussi.
Parfait. Ben, je vous le souhaite énormément. Dernière chose maintenant, si vous aviez à... Si vous aviez à résumer la Ringuette en trois mots, ça serait quoi?
Collaboration, entraide, puis amitié.
J'aurais mis collaboration, intelligence puis rapidité.
Bon, super. Fait que ça, c'était toutes mes questions pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos réponses, puis bonne fin de journée.
De Lalonde où les finales 1000 mètres avaient lieu. Je suis en compagnie de Jérémy Bouchard du club de l'Estrie. Jérémy qui a remporté l'or. Jérémy, es-tu satisfait de ta performance?
Ah, c'est sûr. Je m'attendais un peu à gagner, mais chaque médaille, je suis super content comme n'importe quoi.
Ça te fait combien de médailles avec tout ça? Là? C'est pas ta première participation au jeu? Là?
Non, c'est ma troisième participation. Septième médaille, première d'or par contre.
C'est des exploits de champion, ça. Tu dois commencer à regarder pour les étapes supérieures.
Ouais, ben, je suis déjà en. J'habite déjà à Montréal. Je m'entraîne au centre d'entraînement à Montréal. Puis, je continue à progresser dans le patinage.
C'est excellent. On s'inspire de qui? C'est qui tes idoles en patin de vitesse?
Ben, Jordan Pierre-Gilles, c'est sûr. Puis, je pense à Kim Boutin aussi, Annie Perrault. Ils ont tous passé par Sherbrooke. C'est des super modèles. Puis, j'aimerais ça être comme eux un jour.
Ben, tu fais certainement les efforts en ce sens. On te souhaite vraiment une belle fin de jeu et une bonne fin de compétition. Merci, Jérémy.
Merci beaucoup.
Il rajoutera sa 8e, 9e et 10e médaille, dont deux autres d'or par la suite. Jérémy Bouchard qui a tout raflé en or. Ce qu'il pouvait en tant qu'athlète individuel, il l'a remporté aux 500, aux 1000 et aux 1500 mètres, les trois médailles d'or. Et également, pour la première fois, on présentait les compétitions du 2000 mètres en équipe et ils ont terminé l'Estrie avec la médaille de bronze. Donc, c'est des jeux plus que satisfaisants, j'ai envie de dire, pour Jérémy Bouchard. Semble-t-il que c'était son objectif de repartir avec des podiums à chaque fois, mais il ne le disait pas trop fort quand même, mais pari réussi dans son cas. Donc, félicitations, Jérémy. Et comme Yannick Pinard, qui l'interviewait à la fin de sa première compétition, c'est un nom qu'on risque de réentendre par la suite. Faudra certainement se souvenir de Jérémy Bouchard. Aujourd'hui avaient lieu les deux derniers matchs de hockey féminin où on présentait la finale pour la médaille de bronze ainsi que la finale pour la médaille d'or. Vincent Gianjoppi était sur place et il nous a préparé un topo pour résumer les parties auxquelles il a assisté cet avant-midi.
Bonjour tout le monde, mon nom est Vincent Gengepi, je suis correspondant varieur pour le collectif et CFAQ, ainsi que journaliste pour les Jeux du Québec pour CFAQ. Les Jeux du Québec viennent officiellement de se terminer. On est le samedi 9 mars et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'assister à la finale de bronze et la finale d'or du hockey féminin. Commençons tout d'abord avec la finale de bronze qui se tenait ce matin à 8 heures. Tout d'abord, c'est un match qui opposait l'Estrie à Chaudière-Appalaches. Pour vous donner un peu de contexte, l'Estrie qui avait subi une défaite crève-cœur de 4-3 face à Lac-Saint-Louis le soir d'avant, en demi-finale, et de son côté Chaudière-Appalaches qui s'était fait vraiment donner une leçon de hockey par une puissante équipe de l'Outaouais par la marque de 6-0. Et bon, on connaît la narrative pour l'équipe de l'Estrie. L'Estrie, l'équipe des filles qui avait terminé deuxième au dernier Jeu du Québec à Rivière-du-Loup et qui arrivait dans ce tournoi-là vraiment le couteau entre les dents, voulant cette médaille d'or-là. Et malheureusement, ben, ça ne s'est pas concrétisé en raison de sa défaite face à Lac-Saint-Louis. Mais les filles avaient quand même une belle occasion de médaille et ça paraissait dans l'ambiance, là, dans la foule qui était présente au complexe sportif Thibault-GM très tôt ce matin. L'ambiance était vraiment au rendez-vous, même si ce n'était pas un match pour la médaille d'or. Alors, comment ça s'est déroulé ce match-là? Donc, l'Estrie a commencé très fort en appliquant beaucoup de pression à l'attaque, mais malgré tout, c'est Chaudière-Appalaches qui a pris les devants avec à peine 2 minutes à faire sur un retour de lancer, en fait. Ça faisait donc 1-0 pour Chaudière-Appalaches. Par la suite, l'Estrie va se prendre une pénalité pour avoir accroché et Chaudière-Appalaches va à nouveau en profiter, doublant son avance, là, faisant 2-0 avec à peine 5 minutes de jouer. Il s'agit de Liliane Landry qui a décoché un tir voilé de la ligne bleue et la gardienne estrienne n'y pouvait absolument rien. Elle n'avait pas du tout vu la rondelle. Finalement, ça va de mal en pis en première période. L'Estrie qui se prend une autre pénalité et Chaudière-Appalaches qui triple son avance. Donc, définitivement, une première période à oublier pour l'Estrie. Et quelque chose que je m'étais nommé, noté par ailleurs, c'était la numéro 44 de l'Estrie qui était, selon moi, vraiment la seule étincelle offensive de l'Estrie. Sauf que ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'à un moment donné, elle est arrivée en échappée et elle a tout simplement foncé dans la gardienne adverse. Et l'arbitre a décidé de sévir et de donner une autre avantage numérique à Chaudière-Appalaches. Et encore une fois, en première période, c'est devenu 4-0 grâce à un autre tir voilé de l'enclave de la part de Chaudière-Appalaches. L'Estrie va finalement avoir la chance de réduire l'écart avant la fin de la première avec un tir de l'enclave en avantage numérique pour elle aussi. Mais c'est ainsi que la première période va se terminer sur un score assez peu flatteur là, pour l'Estrie de 4-1 en faveur de Chaudière-Appalaches. À noter également que l'arbitre a appelé quelques punitions assez questionnables, à mon avis, et je crois que la foule serait également en accord avec moi. Beaucoup de pénalités appelées, et parmi les 5 buts qui ont été marqués en première période, il y en a 4 qui ont été marqués alors qu'une équipe était en avantage numérique. Donc, ces décisions-là, un peu plus questionnables de l'arbitre, ont définitivement pesé dans la balance là, de la première période. Si on passe désormais à la deuxième période, il y a eu quand même moins d'actions significatives lors de cette deuxième période-là. Sérieusement, on se promenait d'un côté à l'autre de la partie noire, quelques tirs ici et là, mais rien de très concret. Et là, au fur et à mesure que la période avançait, on a pu constater que l'Estrie martelait le but de la gardienne Kéliane Poulin, mais dans sa lignée dans la lignée de sa performance d'hier face à l'Outaouais, elle a été en mesure de tenir bon. Bon, évidemment, hier, elle avait quand même accordé 6 buts, mais on se rappelle, elle avait dû faire face à une quarantaine de tirs, plusieurs de ces tirs-là de très bonne qualité. Donc, on ne pouvait pas trop lui en vouloir. Et malgré tout, elle a délivré quand même une performance assez solide là, pour l'équipe de Chaudière-Appalaches. On passe désormais en troisième période. L'Estrie qui perd encore 4-1, mais la foule faisait absolument tout pour les encourager. Et ça, ça a paru avant même que la première mise au jeu de la troisième période se fasse retentir. La foule était bruyante et vous pourrez écouter un extrait tantôt là, que j'ai filmé de la foule parce que je trouvais ça franchement impressionnant que malgré un écart de 3 buts, la foule était encore derrière les joueuses. C'était vraiment très, très beau à voir. Mais... malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que l'Estrie a eu un changement un peu laborieux en début de troisième période qui a mené à un 2-0 pour Chaudière-Appalaches, mais finalement la gardienne estrienne qui a fait un super arrêt. Encore une fois, la numéro 44 qui... pour laquelle malheureusement je n'ai pas de nom, vous m'excuserez, mais une joueuse qui m'a particulièrement marqué, là, la numéro 44 de l'Estrie, qui encore une fois était vraiment une étincelle offensive pour l'équipe de l'Estrie, mais qui essayait peut-être d'en faire un peu trop par elle-même, et ça a vraiment paru lorsque, à un moment donné, elle est littéralement partie de derrière son but, est rentrée en zone adverse, s'est rendue derrière le filet et a essayé un Michigan, comme on appelle là, dans le jargon du hockey, c'est-à-dire qu'elle a essayé de faire lever la rondelle avec son bâton et de le passer derrière la gardienne alors que la joueuse était derrière le but. Mais malheureusement, c'est un geste qui ne fonctionnera pas. Et là, à ce moment-là, je crois que la foule estrienne s'est mise à s'impatienter un peu puisqu'elle voyait qu'elle essayait d'en faire beaucoup par elle-même. Et la numéro 44, qui d'ailleurs s'était pris deux ou trois pénalités, qui ont éventuellement là, mené à des buts de Chaudière-Appalaches. Finalement, avec environ 3 minutes à faire au match, c'est encore 4-1. L'Estrie va retirer sa gardienne. Il va continuer d'augmenter la pression sur le but de Chaudière-Appalaches. Et Chaudière-Appalaches va même obtenir un 4 minutes de pénalité pour un coup à la tête. Donc l'Estrie, avec leur gardienne de retirer, tombe donc à 6 contre 4. Une très belle opportunité là, de revenir au score et de marquer quelques buts. Mais malheureusement, un autre cafouillage au milieu de la glace de la part de l'Estrie. Chaudière-Appalaches s'empare de la rondelle et va marquer dans un but désert. Et c'est quand même assez fou parce que, bon, le score est rendu de 5-1 pour Chaudière-Appalaches. Un score très peu flatteur pour l'Estrie. Mais il fallait mentionner que l'Estrie dominait 32-14 au chapitre des tirs au but à ce moment-là. Finalement, avec environ 5 secondes à faire au match, l'Estrie va être en mesure de marquer un petit but de consolation. Et donc, le match va se terminer par la marque de 5-2 en faveur de Chaudière-Appalaches. Malgré les tirs, il faut quand même mentionner que Chaudière-Appalaches a offert une performance beaucoup plus convaincante que ce qu'elle avait su démontrer hier face à une équipe impériale de l'Outaouais. Et ils ont vraiment démontré là, ce matin pourquoi ils méritaient la médaille de bronze. Du côté de l'Estrie, ben, c'est évident. On avait des mines très, très basses. Plusieurs joueurs en larmes en quittant la glace. Je pense d'ailleurs à la numéro 44 qui a été la dernière à sortir de la patinoire, qui a taper son bâton sur la bande, donc beaucoup de frustration. Et on peut les comprendre, étant donné que ces filles-là semblaient vraiment rentrer dans les Jeux du Québec avec un objectif de médaille d'or qui leur avait échappé lors de l'année passée à Rivière-du-Loup. Et elles ont vu plus tôt dans la semaine leur homologue masculin emporter l'or, donc beaucoup d'attentes, des attentes très élevées à leur égard. Et malheureusement, elles n'ont pas su délivrer. Donc la déception du côté de l'Estrie est tout à fait compréhensible. Si on passe désormais à la finale pour la médaille d'or qui se tenait pour sa part à 10h entre l'Outaouais et le lac Saint-Louis. En début de match, ce que j'ai... encore une fois, un peu de contexte. Donc, Outaouais, qui on se rappelle, l'avait emporté 6-0 le jour d'avant face à Chaudière-Appalaches, alors que lac Saint-Louis l'avait emporté dans un match très serré face à l'Estrie par la marque de 4-3. Alors, pour commencer le match, ça se promène d'un côté à l'autre de la patinoire et déjà là, ben pas d'action très, très claire, très concrète, mais ça s'annonçait déjà pour être un match chaudement disputé. Un jeu un peu spécial là, qui a eu lieu en début de match. Il s'agit d'un sifflet hâtif de l'arbitre, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une joueuse de l'Outaouais a tiré. La gardienne n'a pas totalement... contrôler la rondelle, le retour du tir, et une joueuse de l'Outaouais a mis la rondelle au fond du filet, mais l'arbitre avait déjà sifflé, croyant que la gardienne avait bel et bien le contrôle de la rondelle. Évidemment, beaucoup de rouspétage de la part des arbitres, des joueuses et de la foule de la part de l'Outaouais, ce qui était compréhensible, mais voilà. Et ça a mis encore plus d'huile sur le feu, puisque peu après, l'Outaouais s'est pris une pénalité. Et même si la gardienne de l'Outaouais a fait plusieurs beaux arrêts, ben finalement, c'est Lac Saint-Louis qui va prendre les devants grâce à un but un peu spécial, une rondelle déviée, rebondissante d'un tir qui semblait assez inoffensif à la base, mais qui va surprendre toute la défense de l'Outaouais, incluant la gardienne. Et ça fait donc 1-0 pour Lac Saint-Louis. Et là, c'était une situation assez spéciale, puisque c'était probablement la première fois du tournoi que l'Outaouais se faisait mener. Évidemment, la grande question, c'était comment vont-elles réagir? Et elles vont réagir quand même de bonne manière. Elles vont beaucoup menacer en avantage numérique, d'ailleurs, lors de la fin de la période. Mais malgré tout, aucun but. Et Lac Saint-Louis qui repart au vestiaire après la première période avec une avance de 1-0. Par contre, ça il s'agit d'une avance qui ne durera pas très, très longtemps, puisqu'en tout début de deuxième période, l'Outaouais va égaliser à peine une minute là, au début de la deuxième période. C'est une excellente percée de Béatrice Turcotte, tir au but, et il s'agit de Alissa Côté qui va marquer sur un retour dans un but ouvert. Ça fait donc 1-1. Hier, j'avais donné beaucoup d'éloges à la jeune Pénélope Saint-Pierre de l'Outaouais qui était de tous les bons coups offensifs de son équipe. Et ça a vraiment continué aujourd'hui, comme vous allez pouvoir le voir un peu plus tard. Mais ce qui m'a marqué de sa part, surtout lors de la deuxième période, c'est également son jeu défensif, notamment en désavantage numérique, où non seulement elle, mais tout le reste de ses coéquipières faisaient un excellent travail pour conserver la rondelle pendant de longues périodes de temps et pour empêcher Louis Saint-Laurent, Lac Saint-Louis, de s'installer dans leur zone lors d'un avantage numérique. Mentionnons également que la gardienne de l'Outaouais s'est particulièrement illustrée en volant un but à Lac Saint-Louis avec un arrêt en plongeant lors du même avantage numérique. Une autre chose à mentionner, beaucoup de tirs bloqués de la part de Lac Saint-Louis. On voyait le nombre de tirs monter au tableau pour l'Outaouais, mais l'Outaouais aurait facilement pu avoir deux fois plus de tirs au but si ce n'était pas de la défense très hermétique du Lac Saint-Louis. Finalement, avec moins de deux minutes à faire à la troisième période, Outaouais va écoper d'une pénalité, mais la gardienne va tenir bon à nouveau. Et ça m'a vraiment fait réaliser que, évidemment, la performance d'hier d'Outaouais, qui l'emporte par la marque fracassante de 6-0 face à Chaudière-Appalaches, était quand même marquée d'un petit bémol parce que je n'avais vraiment pas été convaincu par la gardienne de l'Outaouais, mais elle s'est très, très bien rattrapée aujourd'hui. Elle ne semblait pas vraiment en confiance hier, mais c'était tout le contraire aujourd'hui. Plusieurs bons arrêts qui ont permis à l'Outaouais de garder définitivement sa place dans le match. Et finalement, en troisième période, ben, c'est là que tout s'est décidé. Et pour de vrai, pour citer l'un des chants des partisans de l'Outaouais, ceux-ci chantaient « Who let the dogs out » ou « Outaouais ». Honnêtement, il s'agira d'un masterclass de la part de l'Outaouais. Alors, à peine 30 secondes de jouer dans la troisième période. Les joueurs de l'Outaouais vont d'abord toucher le poteau, puis marquer sur la séquence suivante, à nouveau grâce à Béatrice Turcotte, qui, on se souvient, avait délivré une passe sur le premier but de son équipe. Peu de temps après, Outaouais va même doubler son avance. Ça va être une rondelle qui se faufile entre les jambières de la gardienne. Et il s'agira d'un deuxième but pour Alissa Côté avec une aide de nul autre que Pénélope Saint-Pierre. Gardienne qui a paru assez faible là-dessus, rondelle un peu bondissante, un tir qui n'avait pas beaucoup d'angle. Donc définitivement un tir que la gardienne de Lac Saint-Louis aurait aimé revoir. Et ça va aller de mal en pis pour les filles de Lac Saint-Louis, puisque Outaouais va faire rapidement 4-1. À nouveau, un tir échappé par la gardienne, un tir en plein plastron qui va échapper à la gardienne de Lac Saint-Louis. Et c'est à nouveau Pénélope Saint-Pierre qui va sauter sur le retour et faire 4-1. À ce moment-là, je me suis vraiment dit, Outaouais a vraiment su augmenter son niveau de jeu d'un cran. Et Lac Saint-Louis a vraiment de la misère à suivre depuis le début de la troisième. Ensuite de ça, qui d'autre que Béatrice Turcotte, qui était déjà autrice de un but et une passe, qui va marquer son deuxième but du match grâce à un beau tir près du cercle des mises en jeu, avec une aide d'Éloïse Gagné, à qui j'avais également lancé des fleurs hier, l'excellente défenseuse du côté de l'Outaouais. Et voilà, donc ça porte la marque à 5-1. Et finalement, avec moins de 10 secondes à faire, ben c'est à nouveau Pénélope Saint-Pierre qui va couronner un superbe match. Deux buts, une passe, au même titre que Béatrice Turcotte, et qui va faire 6-1 pour l'Outaouais. Et c'est ainsi que le match va se terminer. Donc, très, très belle victoire de la part de l'Outaouais. Définitivement la meilleure équipe du tournoi. On se souvient qu'elle avait commencé son tournoi en force en gagnant son premier match 17-1 face à l'Abitibi-Témiscamingue. C'était vraiment un signe de belles choses à venir là, de la part de toute l'équipe de l'Outaouais. Alors, félicitations à cette équipe qui était franchement la plus forte du tournoi. Et voilà, c'est donc ainsi que se termine cette couverture des Jeux du Québec de ma part. Je tiens à mentionner ça aurait été une expérience vraiment incroyable pour moi là, de pouvoir être aussi près des athlètes, de pouvoir couvrir la boxe, le hockey masculin, le tennis de table et le tennis féminin finalement. Je t'ai mentionné, en fait, je l'avais mentionné un peu dans les émissions plus tôt cette semaine, mais j'ai failli les faire, les Jeux du Québec en 2013 à titre de pongiste là, pour le tennis de table. Finalement, j'ai décidé de ne pas le faire, mais après avoir vécu les Jeux du Québec en tant que journaliste, là, j'ai réalisé que je suis vraiment passé à côté de quelque chose et c'est quelque chose que je regrette grandement. Il s'agit vraiment d'un événement qui est unique en soi, qui fait vivre des émotions fortes, qui permet aux jeunes de s'épanouir dans un environnement très sain et éthique. Là, j'ai vraiment été agréablement surpris par ça. Et quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi, là, c'est la chanson des Jeux du Québec que j'ai encore à ce moment-ci de prise dans la tête, mais qui représente tellement bien l'atmosphère de cette compétition-là, là, la jovialité, la simplicité, le respect, mais surtout le plaisir de pratiquer le sport que tu aimes. C'était vraiment, vraiment beau à voir. Et finalement, pour terminer, ben, je tiens à remercier du plus profond de mon cœur toute l'équipe de CFAQ qui a pu faire en sorte que nous vivions cette expérience inoubliable. Je mentionnerai tout d'abord mes journalistes associés, là, donc Jacob Kenville, Simon Swain et Yannick Pinard. Et également, je tiens à remercier la gang de Alex de CFAQ. Donc tout d'abord, Alejandro pour la mise en onde, Alex Baillargeon, qui était l'animateur du récap, Alex Tardif, qui s'est occupé de toute la logistique pour nous, et évidemment, ben Alex Leclerc, le directeur de CFAQ. Je tiens à vous remercier tout le monde pour votre temps et pour votre écoute. Ce fut un réel plaisir pour moi de couvrir les Jeux du Québec pour vous et j'espère avoir la chance de vous reparler très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
On dirait que mis bout à bout, c'est plus flagrant qu'on ait quatre variations d'Alex et Alexandre et Alejandro dans le bureau. Mais bon, ça fait partie de la job. Salutations, Vincent, évidemment. Je vais essayer d'arrêter de te débaptiser également. Pour continuer à souligner les moments forts de ces Jeux du Québec, en haltérophilie, il s'est passé littéralement quelque chose de très particulier. Il y a eu des records qui ont été battus les uns après les autres, ne serait-ce que par la délégation des Laurentides qui repartent avec 15 médailles d'or à eux seuls. Bon, évidemment, il y a plusieurs athlètes qui repartent avec plus d'une médaille, mais on peut quand même souligner le fait que dans les différentes catégories, il y en a quand même 15 qui repartent uniquement dans les Laurentides en or sur les 42 disponibles. Donc, c'est quand même assez particulier. Les records qui ont été battus, on retrouve entre autres Brianna Chartrand dans la catégorie des 49 kilos qui a réussi un record à l'épaulé jeté de 73 kilos. L'ancien record datait de 2013. Thomas Pilote, catégorie 73 kilos, lui, a réussi un record à l'épaulé jeté, 146 kilos qu'il a réussi à soulever. L'ancien record datait de 2019. Guillaume Durocher, catégorie 81 km, a réussi à soulever à l'arraché 117 kilos. L'ancien record datait de 2007. Féminin encore, Rose Beaudoin, catégorie 71 kilos et plus. Record à l'arraché, 88 kilos. L'ancien record datait d'elle-même l'année précédente, en 2023. À l'épaulé jeté, 110 kilos. L'ancien record datait de 2019, détenu par Anaïs Michaud de Montréal en 2019. Et au total, 198 kilos. L'ancien record datait de 2019, détenu également par Anaïs Michaud. C'est maintenant Rose Beaudoin qu'on doit retenir. On s'arrête une dernière fois au retour. La suite de ces rencontres qui ont eu lieu cette semaine et la conclusion de l'émission de ce soir. Vous écoutez le 88.3 CFAQ, c'est le récap qui se poursuit.
Donc, mon nom, c'est Eugène Robert. Je représente la capitale nationale et j'ai 12 ans.
Mon nom est Thomas Marcotte. J'ai 15 ans et je représente la capitale nationale.
Super, enchanté, les gars. Première question pour vous. Ça fait combien de temps que vous pratiquez le sport de la trampoline?
Je pratique le sport depuis que j'ai 4 ans. Ouais, 4 ans.
Moi, ça doit faire à peu près 7-8 ans.
OK, fait vraiment des gars d'expérience. Là. J'ai vu ça pour vrai. Très, très impressionnant à voir, quasiment hypnotisant. Hein? C'est vraiment un bel atout. Est-ce que vous avez... Ça se peut que ça fait longtemps, fait que Je doute que vous allez avoir une réponse fixe, mais est-ce que vous avez une première fois, genre un premier souvenir de la trampoline?
Moi, je me rappelle que la première fois, c'était dans une école de cirque et j'avais fait un front flip et j'étais très content.
Moi, je pense que c'est quand j'ai pas mal commencé la trampoline, fait que j'avais peut-être à peu près 7 ans. Okay. Puis je la vois. Avant, je faisais de la gymnastique. Okay. Je la regardais vraiment du coin de l'œil à chaque fois. Fait que j'avais hâte.
Ah, c'est bon, ça. Pour les Jeux, tu sais, grosse occasion, gros événement, est-ce que vous aviez un objectif personnel en rentrant ici aujourd'hui?
Moi, c'est ne pas tomber de la toile puis finir ma routine.
Moi, c'est avoir le maximum de plaisir, essayer de rencontrer toutes les régions, de parler avec les gens, puis après d'avoir des bons résultats, mais c'était vraiment le social qui comptait pour moi.
Des excellentes réponses, ça, les gars. Gros événement, grosse foule, beaucoup de personnes qui regardent. Avec la pression et le stress, avant, pendant votre routine, après, comment est-ce que vous gérez tout ça?
Moi, après ma routine, je me sens complet, je veux dire. Je me sens... c'est fini, donc je suis plus stressée. Et je suis contente d'avoir bien fait ça. Même si je l'ai manqué, au moins, je me dis que c'est fini.
Avant, pas de pression, pas de stress?
Avant, oui, bien sûr. Un peu stressant de passer devant 1000 personnes. Donc,
Moi, avant, je te dirais, c'est quand je suis rendu à mon tour, un tour près. Après, moi, le stress, c'est quand même une source de motivation pour moi en compétition. Fait que j'essaie de donner mon maximum. Okay. Plus que de gens, on dirait que plus que je suis motivée, plus que j'ai envie de donner mon 110%. Okay. Puis après, je suis contente de faire mon salut, puis je suis contente d'avoir fini.
Excellente réponse, les gars. J'aime vraiment votre énergie. Trampoline, moi, je vois ça. Je vois des gars voler dans les airs, atterrir. Des fois, j'ai mal pour eux, mais ça doit pas faire mal. C'est quoi, d'après vous, l'aspect le plus difficile du sport? Et qu'est-ce que vous faites pour un peu surmonter ça?
Oh, moi, c'est la peur, parce que dans les airs, quand t'es à deux fois ta taille de hauteur puis que tu fais un gros mouvement qui fait des pirouettes partout, ça fait vraiment peur. Fait que c'est ça le plus dur pour moi.
Ça, c'est quoi? Tu fais juste...
Je me dis qu'une fois que je l'aurai faite, ce sera passé, puis c'est quelques secondes de temps. Parfait.
Moi, c'est pas mal la même chose, la peur, le mental, quand t'as fait un nouveau mouvement puis que t'as vraiment de la misère à le faire. Parce que t'as peur, puis ton cerveau te bloque. Oh oui. C'est quand même quelque chose qu'il faut que t'essayes de surmonter, puis ça, ça prend beaucoup de mental.
Je vois ça des fois.
Souvent, il y en a qui s'arrêtent à un certain niveau.
Je comprends, je vois la hauteur, puis moi, aucune chance que je m'essaye, honnêtement. Est-ce que, avant vos routines, vous avez un rituel que vous faites à chaque fois pour un peu garder la même chose?
On fait un cri d'équipe, généralement, de la capitale nationale.
Et vous encouragez
un peu.
Moi, je te dirais que plus que c'est des grosses compétitions, habituellement, quand c'est des grosses compétitions, je la prévois dans ma tête. Okay. Fait que je me mets dans un petit coin, puis je la visualise dans ma tête pour être prêt.
Excellente réponse. Est-ce que dans le sport, que ce soit un entraîneur, un parent, un ami, est-ce que vous avez des inspirations qui vous motivent un peu à vous pousser?
Moi, dans mon groupe de trampoline, j'ai une athlète mondiale. Donc, je m'inspire vraiment de son attitude positive et tout ce qu'elle fait.
Super, ça.
Moi, c'est le Canadien Jason Burnett qui m'encourage. Qui m'encourage. Puis, quand il pose des vidéos, j'aime bien aller les voir. Ça nous donne des trucs. Yeah. Il est super gentil. Donc,
Super, ça. C'est vraiment... Vous êtes déjà... Toutes les réponses sont là. Est-ce que à travers toi, 8 ans, toi, 7 ans? Est-ce que j'ai compris?
7-8 ans.
Est-ce que vous avez un moment marquant? C'est comme le top de votre aventure avec toutes les trampolines.
Moi, je dirais la première fois que j'ai eu une médaille d'or en compétition, c'est l'année passée, car j'ai commencé à faire de la compétition juste l'année passée. Puis ça m'avait vraiment marqué du fond de mon cœur, puis j'étais vraiment contente.
C'est sûr, c'est sûr.
C'est l'année passée aussi, moi, sur le championnat de l'Est du Canada, j'ai eu la médaille d'or, fait que c'était ma première, puis en plus, dans une énorme compétition, je suis vraiment content.
Je suis avec des champions en ce moment, là. C'est incroyable. Est-ce que vous mettez de l'importance aussi sur votre vie à l'extérieur de la trampoline, comme les activités d'autres passe-temps que vous avez pour un peu garder un équilibre entre athlète et humain?
Je dirais que je m'amuse. Je pense pas trop à la trampoline en dehors de mon sport, car sinon ça me stresse un peu, les compétitions et tout. Donc il faut vivre sans le stress en dehors de la trampoline. Ouais.
Oui, certainement. C'est sûr que quand je suis à l'extérieur, j'ai envie de m'amuser avec mes amis. La journée où j'ai un entraînement, c'est sûr je vais y penser un peu parce que j'ai hâte puis que je me prévois quoi ce que je vais faire comme mouvement et tout. Mais sinon, j'essaie de garder un bel équilibre dans le tout.
Excellent ça, les gars. Vous êtes déjà mieux que moi dans l'équilibre. Et dernière petite question pour vous. C'est quoi vos plans dans l'avenir, que ce soit dans 1 an, 5 ans, 10 ans, avec le sport de la trampoline?
Moi, je dirais d'avoir du fun, de m'amuser, de connaître plein de gens, puis aussi de gagner une certaine place, une bonne place dans des compétitions parce que c'est le fun.
Très ça.
Moi, quand je vais finir mon secondaire, je vais arrêter les compétitions, mais je vais continuer par plaisir, parce que j'aime vraiment ça comme sport. Pas juste pour les compétitions, mais pour m'amuser.
Ben oui.
Fait que, en dehors de ma vie, de mon travail, je vais continuer à en faire.
Fait dans le fond, peut-être en tant qu'entraîneur?
Ouais, je suis déjà entraîneur.
Tabarouette, c'est déjà tout prêt. Ok, merci beaucoup les gars, j'apprécie beaucoup votre temps et vos réponses. Bonne chance et bonne fin de la reste de fin de semaine.
C'était Simon Swain qui rencontrait les représentants de la capitale nationale, Eugène et Thomas, pour la compétition de trampoline. Et dernier passage qu'on voulait vous faire y entendre, c'était les sans-patries au tennis de table. C'était Vincent, ancien pongiste lui-même, qui les avait rencontrés juste avant leur finale. Donc, deux sœurs qui compétitionnaient, l'une dans la catégorie des 17 ans et moins, l'autre dans la catégorie des 14 ans et moins. Voilà, la plus jeune a remporté sa compétition. L'autre, par contre, a terminé quatrième, malheureusement, mais c'était juste avant de faire leur compétition finale.
Je suis en compagnie de Jasmine et Zoé Patry, deux sœurs qui jouent au tennis de table pour l'Estrie. Les filles, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, merci. Toi?
Oui, ça va bien.
Oui, la compétition a commencé aujourd'hui. Pouvez-vous me parler un peu de vos résultats là, des derniers matchs?
Oui, dans le fond, ce matin, c'est les préliminaires, donc des poules de 4, puis on jouait, non, de 3, puis on jouait nos matchs pour ensuite sortir dans les tableaux. Moi, j'ai gagné tous mes matchs, donc je sors dans le tableau, je suis en 8e présentement, donc je vais jouer mon match bientôt.
OK. Toi, de ton côté?
Moi aussi, j'ai gagné tous mes matchs, mais je ne rejoue pas aujourd'hui, c'est demain que je vais continuer.
Tu passes directement en quart de finale, si je ne me trompe pas?
En demi-finale.
En demi-finale.
Puisque je suis première dans la catégorie.
Wow, pas mal impressionnant. Toi, ton côté, est-ce que tu es familière avec ton opposition pour ton match de tantôt?
Avec mon... quoi?
Ton adversaire.
J'ai joué peut-être avec elle 2 fois. Je me rappelle pas, mais je suis confiante que ça va bien aller, puis je vais remporter.
Oui. Ouais. Pouvez-vous me parler un peu de comment vous avez fait pour découvrir ce sport-là?
Dans le fond, on a la même raison à peu près. Notre mère, c'est une ancienne joueuse.
Mm-hmm.
Puis elle est allée à un tournoi des anciens. Puis dans le fond, pour pratiquer un peu avant, elle nous avait amenés au club. Puis on a commencé à ce moment-là ensemble. Puis on n'a jamais arrêté.
Oui.
Exactement. Là, c'est au début, moi, j'en faisais un peu plus que Jasmine, mais elle a embarqué.
Ouais.
Oui. Vraiment cool. Et là, toi, tu me disais tantôt que vous faites désormais, en fait, depuis quelques années, partie du sport études, tennis de table au triolet. Peux-tu me parler un peu de comment ce sport études-là est venu à être?
Ouais, dans le fond, on avait beaucoup d'intérêt, moi et un autre jeune, de commencer à sport études. Puis les autres joueurs qui devenaient meilleurs, ils étaient trop jeunes encore. Donc nous, on voulait quand même s'entraîner plus. Donc on a créé un sport-études ici. Mais au triolet, ça a déjà été un sport-études avant.
OK.
Puis on l'a juste remis en marche. Donc, ouais, je me suis entraînée pendant un an avec juste un gars dans une salle un peu médiocre,
ouais.
À Julien Ducharme.
Ah, c'était à Julien
Ducharme? Ouais, ça fait longtemps.
Oui. Et toi, à 14 ans, ça fait quoi, 2 ans désormais que tu fais le sport-études? Comment tu trouves ça?
Honnêtement, c'est très bien, là. Surtout avec notre coach Marco, parce que,
oui,
t'sais, il nous aide à s'améliorer. Puis, le club, t'sais, c'est bon, mais avec le sport-études, tu peux vraiment plus t'améliorer. Puis, ouais, je suis contente de le faire.
Parlant de Marco, justement, vous avez un coach assez exceptionnel. Pouvez-vous m'en parler un peu plus?
Ouais, dans le fond, Marco, c'était un joueur professionnel. Il est allé jouer en Europe pendant des années et des années. Puis il a arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Dans le fond, il a arrêté puis il a commencé à nous coacher à ce moment-là. Donc, ouais, vraiment, on est chanceuse de l'avoir. C'est vraiment un top joueur dans les meilleurs qu'on a eu au Canada.
Ouais, hein, il a remporté plusieurs médailles à l'international, si je ne me trompe pas.
J'espère.
Oui, c'est vrai. Oui. Toi, Zoé, de ton bord, tu as eu une occasion assez unique d'allumer la flamme pour la cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec. Peux-tu me parler de ça? C'était quoi comme expérience?
Oui, c'est vrai. J'étais vraiment fière, mais c'était aussi très stressant. Mm-hmm. Comme quand on nous a contactés au début pour que je puisse le faire, ma mère a tout de suite répondu oui, puis c'est ça. Donc, au début, je trouvais ça correct. C'était pas stressant, là. Tout était correct, mais comme lorsqu'on est arrivé à la cérémonie, là, j'étais plus pas capable. Ouais. Je shakais vraiment. Mais honnêtement, je crois que ça s'est bien passé. Puis, tu sais, je suis fière de le faire, puis, tu sais, de représenter l'Estrie comme les Jeux du Québec. Mm-hmm.
Pour avoir été là à la cérémonie d'ouverture, là, t'as super bien fait ça. N'inquiète pas. Puis, Jasmine, je vois que t'es quand même assez pressée, là. Donc, dernière question pour vous deux. Vous êtes encore assez jeune. Là, présentement, vous performez très, très bien aux Jeux du Québec. Où est-ce que vous voyez aller sur le long terme avec le tennis de table?
Pour de vrai, moi, je vois vraiment ce sport-là comme une façon de me surpasser. Puis, si je peux atteindre des hauts niveaux canadiens, c'est mon but. Au niveau québécois, je m'en viens là, donc mm-hmm. je suis vraiment comme contente, je suis motivée. Mais c'est sûr que j'ai comme priorité les études, puis aussi juste moi-même. Donc, vraiment, je pense que lorsque je vais en avoir assez, puis quand je vais penser que ça va être fini pour moi, ça va juste être comme ça, puis je vais arrêter. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup d'espoir pour mon futur.
Oui. Évidemment, le cégep s'en vient à grands pas, plutôt. Ouais. Est-ce que tu as déjà considéré tes options rendues au cégep?
J'ai pensé un peu, probablement Sherbrooke, mais je pense aussi à aller ailleurs pour le ping-pong, justement, mm-hmm. parce que ça m'ouvre plus de portes. Donc, je pense à ça, ouais.
OK. Intéressant. Et toi, Zoé?
Moi, honnêtement, j'y pense encore, mais comme un peu comme Jasmine, plus professionnellement canadien, puis peut-être internationalement, mais mm-hmm. ça, on verra, que si je suis encore jeune. Mais honnêtement, je veux juste continuer à jouer, puis tu sais, faire de mon mieux, puis essayer d'atteindre le meilleur niveau que je puisse atteindre.
Génial. Les filles, je prendrai pas plus de votre temps. Je vous remercie énormément, c'est super apprécié, puis bonne chance pour le reste du tournoi.
Alors, finalement, c'est Zoé qui est repartie avec la médaille d'or pour les 14 ans et moins. Et comme je le disais, malheureusement, sa grande sœur, elle, Jasmine, a terminé à la quatrième position dans une défaite certainement crève-cœur sur son dernier match. Et c'est là-dessus que ça se termine officiellement pour nous cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Récap CFAQ. Mon nom est Alex Baillargeon. Je veux remercier tous mes collaborateurs qui étaient à l'émission cette semaine, Jacob Kenville, Simon Swain, Vincent Gianjopi et Yannick Pinard, qui nous ont fait multiples entrevues et qui ont même commenté le sport en direct. Salutations évidemment à Alexandre Tardif et Alejandro Guerrero Gonzalez qui nous ont fourni les montages de ces mêmes entrevues et Alex Leclerc pour la confiance à l'animation de cette émission spéciale. On se dit à une prochaine fois. Certainement, c'était la 58e édition des Jeux du Québec présentée ici même à Sherbrooke. Pour ma part, je vous retrouve vendredi prochain, 11h, sur les ondes de CFAQ 88.3. C'était le Récap CFAQ. Restez bien branchés au 88.3 à Sherbrooke.